ce premier verset du chapitre 18 des Proverbes, il est dit ceci: celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît, il conteste contre toute sagesse. Il conteste contre toute sagesse. Il nous faut donc éviter ces contestations, ces disputes de mots qui engendrent les contestations. Et nous serons instruits à l'égard de questions délicates, eh bien, dans la proximité, nous le répétons, de frères qui voudront bien nous enseigner à cet égard.
Ce qui importe donc, c'est l'état d'esprit et de cœur de celui qui est appelé ici l'esclave du Seigneur. Ce sera l'homme de Dieu dans le chapitre suivant, ici, l'esclave du Seigneur. Si cette position d'esclave est comprise, et si on en est conscient, et si on se trouve bien devant le Maître auquel on a le privilège d'appartenir, on ne cherchera qu'à gagner à se mettre ceux auxquels on a affaire. On aura en vue l'intérêt des âmes auxquelles, avec lesquelles nous sommes en contact, mais pour le bien, pour les intérêts, pour la gloire de ce maître. Et alors, il y a là une douceur d'esprit qui est expressément demandée. La dureté, l'esprit et la parole abrupte ne répondent pas à ce que nous avons ici, chacun a son caractère, assurément, mais ici il s'agit de l'état intérieur. Et les apparences peuvent tromper, il peut y avoir une affectation de douceur qui est encore peut-être quelque chose de pire. Il y a l'hypocrisie, mais l'état d'esprit qui est demandé ici est celui de la douceur envers tous, qui que ce soit. Et alors, propre à enseigner, ayant du support. Et ce support et cette douceur d'esprit trouvent leur modèle et leur source en Dieu lui-même. Nous trouvons immédiatement après, en effet, que Dieu peut donner la repentance, attendant si Dieu, peut-être, ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. Il y a cette confiance en Dieu pour opérer ce que nous ne pouvons pas opérer. Nous avons à enseigner, s'il s'agit d'enseignement, à exposer, présenter ce que Dieu nous met à cœur, ce qui est dans la parole, en usant de douceur, en supportant, mais nous ne pouvons jamais obliger, contraindre, forcer une âme. Nous n'en avons ni le pouvoir, ni le droit. Cela ne nous appartient pas. Nous remettons cette âme à Dieu et nous attendons, même vis-à-vis des contestataires qui seraient les plus pénibles à supporter, nous attendons à Dieu pour que s'il le juge bon, il leur donne la repentance pour reconnaître la vérité, pour qu'ils se réveillent du piège du diable par qui ils ont été pris, de manière à faire la volonté de Dieu. Il s'agit ici de faux docteurs, bien entendu, auxquels on peut avoir affaire, auxquels Timothée pouvait avoir affaire, en tout cas de gens manifestant leur propre volonté dans les choses de Dieu dans lesquelles ils s'ingèrent et qui ont à rendre compte à Dieu lui-même.
Nous notons aussi dans ces conditions-là, comme on vient le dire, et c'est très important, nous ne pouvons pas imposer même ce que nous avons, nous pourrions savoir, être certainement la vérité. C'est Dieu seul qui peut l'imposer. Et l'humilité, la patience, toutes ces admirables vertus toujours fondamentales sont de rigueur là plus encore plus qu'ailleurs. Elles ne se réalisent que quand le Christ est dans le cœur encore une fois. Mais si nous ne pouvons pas imposer même la vérité, ce dont nous serions sûrs qu'elle est la vérité, notre devoir, c'est de parler sans rien dire. C'est-à-dire que d'avoir une attitude en rapport avec la certitude que nous pouvons avoir de la part de Dieu. L'attitude tranquille, continue, et c'est ce qui pourra rendre le plus grand service à ceux qui voudraient contester. Ne pas se laisser ébranler quant à la vérité que l'on peut détenir, n'est-ce pas, mais le faire d'une façon extrêmement tranquille. Et comme on l'a dit, quelqu'un qui réalise la paix, quelle influence il exerce autour de lui par cela même, sans le chercher. C'est quelqu'un qui, à qui la grâce est faite de réaliser ce qui est important pour tout le monde, de se gouverner lui-même, gouvernement intérieur de soi.
Le maître parfait, quand il s'adresse à nous pour nous dispenser ses enseignements, dit en Matthieu 11, « Apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Apprenez de moi, je suis débonnaire. » Donc, il n'y a pas là un sens de faiblesse, mais de disposition intérieure qui était celle du Seigneur lui-même, n'élevant pas sa voix dans les rues, n'éteignant pas le lumignon qui fume à peine, mais pouvant dire par son exemple, poursuivant le bien tous les jours, allant de lieu en lieu, faisant du bien, apprenez de moi, je suis débonnaire et humble de cœur. Rapport avec cette dureté, celle qui est ici présenté comme la négation de l'esprit chrétien, qui nous soit permis, en toute sainte crainte et tout respect dû à la mémoire de ceux qui, il y a 70 ans, 80 ans, ont eu une responsabilité dans l'Assemblée. Qu'il me soit permis de rappeler, car ce sont des choses sues d'une manière certaine par ceux qui ont recueilli de ce temps-là, cette période du témoignage, de rappeler les dégâts qui ont été causés par cette dureté, cette façon abrupte et sans esprit de support de présenter les choses et de porter un jugement sur toute chose. Ce n'est pas sans un serrement de cœur que nous rappelons que ceux-là, les premiers, ont eu dans leurs propres circonstances et même dans leur propre famille un retour des choses dont le souvenir nous troublerait si nous n'avions pas le sentiment que la miséricorde de Dieu s'est exercée au moins envers eux. Mais la chose est telle, nous pourrions donner des preuves et en citer des exemples. C'est que ce qu'un homme sème, cela aussi il moissonnera. C'est que si nous sommes rudes, durs, insistants même, outre mesure sur ce qui pourtant est une vérité selon Dieu, le moment viendra. Ou à notre tour, nous souffrirons de la dureté et de la rudesse, non pas de nos frères, mais de ce qui attend. Ceux qui, sans égard pour la conscience ou le cœur de nos frères, de leurs frères, insistent, outre mesure, dépassant leur mesure, et finalement sont exposés à tomber dans un véritable léganisme dont nous savons bien qu'il est la négation du christianisme. Nous avons besoin d'être sages, d'être patients, d'être prudents, ayant devant nous le modèle inimitable de celui qui était débonnaire et humble de cœur, débonnaire, quelqu'un avec qui il fait bon vivre, parce qu'on sent qu'il y a un équilibre, et en effet c'était l'équilibre divin dans un homme, mais débonnaire et humble de cœur, alors repose nos âmes, la bénédiction de l'Assemblée, des circonstances qui paraissent insolubles, et à qui Dieu fait lui-même la solution. Inextricable. Et puis, le fil conducteur un jour se trouve et la délivrance intervient. Attendant si, peut-être, Dieu ne leur donnera pas la repentance. Pour revenir du piège du diable, que Dieu nous donne de penser sérieusement à ces choses, de rechercher la paix, de poursuivre l'amour, de garder l'unité d'esprit dans les liens de la paix. Il y a là une prospérité pour les assemblées, il y a là d'heureux rapports fraternels, on se fait du bien les uns aux autres. On s'encourage dans le Seigneur, on s'édifie en lui. Que Dieu nous en accorde la grâce. Et qu'on me permette encore un petit mot à l'égard de notre chère jeunesse. Vous avez, je l'espère, dans vos bibliothèques, en tout cas vous pourriez avoir à votre disposition personnelle, et quelle bonne lecture que celle-là, vous avez le ministère écrit, pesé, j'allais dire contrôlé, de ceux qui nous ont ouvert le chemin. Est-ce que c'est vers un de ces ouvrages que s'oriente votre main dans un moment de tranquillité où vous pourriez avoir avec le Seigneur, un moment de communion? Est-ce que c'est cet ouvrage que nous trouvons, que vous trouvez comme d'instinct sur les rayons de votre petite bibliothèque? Ah, s'il en est ainsi, vous êtes dans le chemin de la sauvegarde. L'Esprit de Dieu est là et il vous donnera par le moyen de ces témoignages écrits, tous en rapport avec la parole de Dieu. Aucun de ces ouvrages auxquels nous faisons allusion ne s'écarte de cette parole. Et nous l'affirmons parce que c'est un fait d'expérience. Est-ce que c'est cela, chers jeunes amis? Vers quoi vont votre intérêt et votre attachement? Nous savons bien que vous vivez des circonstances dont nous n'avons pas connu les pareilles. Nous savons bien, et si nous pouvions aborder le chapitre 3, nous verrions que nous sommes dans ces temps fâcheux où l'égoïsme est la règle, où la contestation est la surnorme, les droits, où le respect de ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde s'affirme d'une manière outrageuse. Nos cœurs sont serrés à la pensée que vous êtes exposés à ces choses. Finalement, c'est l'atmosphère que vous respirez. Et vous n'en êtes pas responsable. Vos parents prient pour vous sans cesse. Vous êtes leurs biens les plus précieux. Et je pense qu'il n'y a pas une réunion de prière où on peut se séparer sans avoir eu une intercession en faveur de notre chère jeunesse. Ce n'est pas un adjectif mis là au hasard ou par la force de l'habitude, mais cette jeunesse nous est chère. Oui, nous n'avons pas de bien plus précieux dans ce monde que nos enfants et ceux qui les suivent. L'Assemblée n'a pas d'intérêt plus direct, outre naturellement la gloire du Seigneur, que dans ces enfants qu'elle est chargée, et non pas d'enseigner, mais auxquels il faut qu'elle donne l'exemple. Atmosphère de paix, de bénédiction, de communion. Que Dieu nous donne de vivre cela, mes chers amis, chacun dans nos assemblées respectives et chacun dans nos propres foyers, chacun dans nos maisons. Alors, la promesse du Seigneur, bien la voilà. Ô Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Comme le dit l'apôtre à son enfant Timothée, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Sur eux, répands tes biens. Soutiens leur foi. Dans le 112. Au ciel, Jésus viendra. Au ciel, il nous prendra. Vivons pour lui. Il dit, je viens bientôt. Gardons le bon dépôt, veillons. Déjà la nuit pâlit et fuit.
27.